Bonjour à tous et bienvenue au Corporate Chat Podcast, version française. Votre animateur pour aujourd'hui est moi-même, Mathis Grandchamp, étudiant en finance à l'Université McGill. Notre invité pour aujourd'hui est Dominique Anglade. Dominique Anglade est présentement co-leader de l'économie durable au HEC. Auparavant, elle a été chef du Parti libéral de Québec, PDG de Montréal International, a travaillé chez McKinsey, Nortel et Procter & Gamble. Dominique Anglade a obtenu son bac en génie industriel de la Polytechnique et plus tard son MBA du HEC. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Dominique Anglade.
Bonjour Dominique, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Mathis, content d'être avec toi aujourd'hui.
Merci, pareillement. Gradué de la Polytechnique initialement, pouvez-vous nous parler de vos ambitions, de vos intérêts quand vous étiez plus jeune?
Alors, mes ambitions et intérêts quand j'étais plus jeune. D'abord, j'ai décidé très tôt que j'irais en génie industriel à Polytechnique. Alors, j'avais 15 ans quand, non, 16 ans quand j'ai décidé que c'est ça que je ferais, puis que j'allais faire un MBA par la suite. C'était vraiment ça mon plan de match. Parce que j'aimais bien les sciences, puis ça ouvrait beaucoup de portes, et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Puis c'est un diplôme, avec, au bout du compte, c'est un diplôme professionnel. Donc, je me disais, ça va bien fonctionner pour moi. Et donc, j'étais partie habiter en Haïti pendant 3 ans, parce que je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec. Mais j'ai vécu en Haïti pendant 3 ans, de 14 à 17 ans, donc je suis revenue à ce moment-là pour aller à Polytechnique.
Super. Puis, pouvez-vous nous parler de votre parcours qui s'est ensuivi après votre graduation de la Polytechnique?
Ben, je vais dire un peu avant, Mathis, à Polytechnique, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été présidente de l'Association des étudiants, j'ai été impliquée au Parlement jeunesse du Québec, au Conseil de ville de Montréal. Alors, plein d'implications, des compétitions québécoises et canadiennes d'ingénierie. Et j'ai trouvé ça hyper stimulant de faire plein d'affaires différentes. Là, je faisais toutes sortes de trucs. Et par la suite, j'ai eu une offre de chez Procter & Gamble que je ne connaissais pas. Et je suis partie travailler en Ontario et aux États-Unis avec Procter & Gamble en usine, dans le secteur manufacturier en usine. Et honnêtement, à ce jour, aujourd'hui, j'ai 50 ans. À ce jour, je peux dire que ça a été ma meilleure école en termes de formation. C'était extraordinaire. J'ai adoré cette entreprise. C'était vraiment quelque chose de top, top, top.
Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette expérience était autant positive?
Tout. Le développement humain. J'ai eu des responsabilités jeunes. J'ai géré beaucoup d'employés. J'avais 22 ans, j'ai géré 15 personnes. J'avais 24 ans, j'ai géré plus que 100 personnes. J'avais beaucoup de responsabilités. J'ai été la manager la promue la plus rapidement à cet endroit-là. À l'époque, tu pouvais faire des conférences à l'international, tu pouvais voyager, Alors, il y en avait, ça avait faim, il te nourrissait beaucoup et il te nourrissait bien, de la bonne chose, de la bonne quantité, des bons aliments. Donc, tu avais des opportunités d'aller travailler aux États-Unis ou même en Europe, de voyager. Le côté humain était très, très, très fort, très poussé. Et donc, j'ai pris mes classes chez P&G. Après ça, je suis revenue au Québec chez Nortel.
Oui.
Et j'ai fait 4 ans chez Nortel, mais là, j'ai surtout fait mon MBA en parallèle. J'étais présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Et puis après ça, j'ai fait le saut chez McKinsey pendant 7 ans.
Puis, en quoi consistait votre rôle chez McKinsey?
McKinsey est consultant, donc c'est accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur transformation. Je suis beaucoup spécialisée dans les transformations d'organisation, que ce soit dans le domaine bancaire, technologique, j'allais dire associatif, mais c'est plus les organismes, les OBNL. Donc, vraiment la transformation d'organisation, du secteur manufacturier aussi. Et là, quand tu transformes une organisation, tu as besoin de transformer l'aspect opérationnel, mais tu as besoin de transformer l'aspect culturel, qui est sans doute le plus important. Et donc, réussir à combiner ça chez McKinsey, j'ai vraiment adoré.
Puis, qu'est-ce qui a motivé votre saut ensuite du monde des affaires au monde du service public?
Quand j'étais chez McKinsey, j'ai aimé ça, mais je n'étais pas complète. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai toujours aimé m'impliquer, m'engager, puis j'étais pas capable de réconcilier le fait que je m'impliquais dans plein d'organisations, puis qu'en même temps, j'avançais dans ma carrière professionnelle, puis je trouvais que les deux se rejoignaient pas. Puis j'avais déjà, tu sais, je trouvais ça lourd de devoir toujours t'impliquer dans la communauté, puis faire ton travail, ça va jamais réussir à se rejoindre, ces deux affaires-là. Ça, c'est mon sentiment à l'époque. Et quand je suis revenue de mon deuxième congé maternité, J'ai décidé de créer une fondation qui s'appelle la Fondation Campé en Haïti. Puis c'est justement pour dire, ben, je vais au moins faire quelque chose de significatif dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir. Fait que je me suis investie là-dedans jusqu'à ce qu'arrive pour moi. J'ai toujours la meilleure job à vie, mais c'est une super job, c'était PDG de Montréal International. Et là, j'ai réussi à tout combiner. Ça, c'était extraordinaire. Parce que là, je me développais personnellement comme PDG, comme leader, mais en même temps, j'avais un impact social qui était plus grand de par le travail que je faisais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'est un des meilleurs moments où j'ai pu combiner les deux.
Puis si on revient un peu en arrière, vous avez mentionné que le rôle des femmes vous préoccupe et vous avez justement occupé des rôles de leadership importants, comme vous l'avez dit par exemple, en ayant été la première femme noire qui a été élue au chef du parti au Canada. Est-ce que vous pouvez nous partager certains défis que vous avez confrontés en tant que leader dans un environnement dominé par des hommes?
Ah, oh, t'as plein de défis. C'est sûr que c'est plus difficile. Chaque fois que t'ajoutes un niveau de complexité, chaque fois t'ajoutes, non, excuse-moi, chaque fois t'ajoutes un niveau de diversité, t'ajoutes un niveau de complexité. Donc, si t'es une femme dans un milieu d'hommes, c'est plus complexe. Si t'es une femme noire dans un milieu d'hommes blancs, c'est plus complexe. Si t'es une femme noire LGBTQ dans un, c'est, chaque niveau amène son niveau de complexité. Donc, tu dois constamment te dépasser, pour y arriver. Est-ce que j'ai vécu des moments où j'ai eu des commentaires qui étaient totalement inappropriés? Absolument. Est-ce que j'ai trouvé qu'il y a des moments qui étaient difficiles? Terriblement. Est-ce que je suis passée à travers? Absolument aussi. Alors, tu sais, c'est, oui, ça a été plus dur, mais t'as aussi le, être pionnier, ça vient avec un coup. Mais tu traces la voie, tu traces le chemin, puis ça fait en sorte que ceux qui vont te suivre, ce sera plus facile. Fait que c'est ça aussi, c'est une roue qui tourne à l'humanité, c'est une roue qui tourne.
On a aussi touché brièvement sur votre équilibre entre le travail et votre vie personnelle lorsque vous étiez chef du Parti libéral. Est-ce que vous pouvez un peu nous tracer sur comment cet équilibre-là a évolué durant votre carrière?
C'est difficile, c'est la chose la plus difficile. En politique, ça a été toujours la chose la plus difficile pour moi, c'est de trouver l'équilibre entre ma carrière et mes enfants. D'abord et avant tout. Et en politique, quand tu rentres là-dedans, il y a beaucoup de choses qui prennent le bord. Bon, toutes tes implications sociales prennent le bord. Tes amis prennent un peu le bord aussi, parce que le temps que tu as, c'est pour tes enfants. Puis heureusement, tes amis le comprennent. Puis il y a ton chum aussi, dans mon cas, les enfants aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui passent pas à travers la politique, parce que c'est pas facile. Mais tu peux dire non. En fait, faire de la politique et avoir des enfants, c'est faisable. Être chef de parti, puis avoir des enfants, c'est un vrai défi, surtout quand tu sois adolescent. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement difficile, je dois dire.
Puis est-ce que ça va peser dans la balance peut-être pour
C'est
vous,
sûr.
ouais.
C'est sûr que ça pèse dans la balance. C'est sûr, sûr, sûr. Tu sais, moi, j'ai mes filles qui vont me dire, je ferai jamais la politique parce que tu vois jamais tes enfants. Tu sais?
Et puis ouais.
OK? Alors que moi, j'ai tout fait pour voir mes enfants régulièrement, partir en vacances avec eux, passer du temps avec eux. Ils vont me dire ça. Est-ce qu'ils sont contents du travail que j'ai effectué en politique? Certainement. Mais je pense qu'ils se souviennent aussi particulièrement des dernières années où j'étais chef. Et là où ils m'ont vu moins souvent, par définition. Puis même quand t'es là, t'es pas totalement là. Fait que y a de ça aussi, ça pesait. Donc j'apprécie tellement les moments que j'ai. Mon fils, il m'a dit, il y a 2 jours, il était 11h45, là, je voulais me coucher, t'sais. Puis il m'a dit, mais ça me fait vraiment du bien de parler avec toi. Tu sais, quand ton fils de 17 ans qui dit ça, tu te dis, bon, ça va faire ma semaine. Oh.
Puis, est-ce que vous auriez des conseils justement aux personnes qui sont dans cette situation-là présentement, qui sont pas capables de, à cause du travail, d'avoir l'équilibre? Qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce que c'est de faire le plus du moment qu'on a avec nos enfants? C'est quoi là?
Bon, alors premièrement, il y a des âges différents. Il y a les enfants-enfants. L'enfance, pour moi, c'est plus facile que l'adolescence. Parce que l'enfance, t'as un bon papa, une bonne grand-mère, une bonne gardienne, une bonne structure, c'est pas si mal. Mais quand tu arrives dans l'adolescence, c'est toi qui as besoin d'être là. Et ça, je le savais pas. Je le savais pas. Il y a personne qui me l'avait dit comme ça. Mais là, tu le découvres. Alors, moi, je dirais, si vous avez des choses à faire, faites-le quand ils sont petits, quand ils sont grands. Entre les deux, c'est moins facile. Te débarrasser aussi de choses que t'es pas obligé de faire, puis que on te force à faire, tu sais. Moi, je suis pas bonne en cuisine. J'ai jamais été. Je cuisine pas. Quand je cuisine, c'est assez mauvais. Fait que je cuisine pas ou rarement. Puis c'est correct. Parfois, tu sais, tu te dis, mais il y a des affaires que je ferai pas, puis c'est la vie, puis je vais trouver un mécanisme, des moyens de faire différemment. Un autre volet qui est intéressant, c'est le reframing. C'est on te dit beaucoup que t'as des choses que tu dois faire comme parent, mais c'est à toi de décider comment tu veux les faire. Moi, je me souviens, comme on dit, Mathis, et la première journée d'école de ton enfant, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut vraiment que tu sois là. C'est la première journée, tu sais. Puis là, on fait une grosse histoire avec la première journée. Moi, la première journée d'école de mon fils, qui avait 5 ans, qui était à la maternelle, je pouvais pas être. Pour des raisons politiques. Et je me sentais terriblement coupable. Puis là, je me suis dit, puis là, je vais parler à mon fils, je lui disais, tu sais, maman sera pas là, mais elle t'aime, tout ça, je vais faire tout ça. Là, j'ai dit, ah, reframe. Alors, je suis allée voir mon fils, puis je lui ai dit, ça va être la première journée d'école? Maman sera pas là, tout le monde va avoir sa maman, mais toi, tu vas être très spéciale cette journée-là. Toi, tu vas avoir ton papa et ta tante. Je me demandais à ma soeur d'y aller. Il n'y a personne dans la cour, là, à les nouveaux qui vont voir leur papa puis leur tante ensemble pour l'école. Puis la deuxième journée, là, il n'y aura presque plus de maman, mais moi, je vais être là. Ça va être super spécial. Fini! Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'enjeu, il n'y a jamais eu de... Fait que, parfois, il faut juste remettre les choses en perspective.
Ouais, ça fait super du sens. Puis, pour transitionner vers le segment actualité, lorsque vous étiez ministre de l'économie, de la science, puis de l'innovation, quelles ont été certaines décisions clés que vous avez prises et qui, selon vous, ont façonné le paysage économique du Québec?
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais le MILA, sous sa nouvelle forme, a été littéralement créé sous mon gouvernement, sous le gouvernement que je représentais, alors que j'étais ministre de l'économie, parce qu'on est allé chercher tous les investissements, tout le financement, tout ça, on est allé chercher au complet. Puis j'avais une passion pour l'intelligence artificielle à l'époque, qui s'est traduite, concrètement parlant, dans des pièces trébuchantes et sonnantes. Puis on a mis en place ce comité-là, qui a donné naissance au MILA dans la version actuelle des choses, et dont on parle constamment aujourd'hui avec à sa tête Valérie Pisano. Bon. Évidemment, il y a Yoshua Bianjou qui est impliqué. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple serait tout ce qu'on a investi en termes de modernisation, robotisation, numérisation des entreprises, des milliards de dollars qu'on a investis, qui jusqu'à présent rapportent à la société québécoise. Troisième exemple, Entreprendre ici, qui est un organisme qui permet à des gens issus de la diversité de devenir entrepreneurs. Puis il y a eu plein de personnes qui sont passées à travers cette organisation-là. Elle existe encore. Quand tu as été ministre, que tu as amené quelque chose qui perdure dans le temps, qui n'est pas nécessairement une loi, quand tu as l'économie, c'est moins une loi que des affaires très concrètes que tu mets de l'avant, c'est quand même un beau testament sur le travail que tu as réussi à faire. Il y a des choses, par contre, qu'on ne mentionne pas, mais qui sont importantes aussi, c'est aussi les projets que tu as refusé de faire qui sont importants. Moi, à quelques reprises, on m'a mis dans différentes directions, puis on m'a dit, on devrait faire ci, on devrait faire ça, je ne crois pas ça. Fait que les choix sont aussi importants que les non-choix que tu fais aussi.
Puis, est-ce que vous avez un exemple d'un aboutissement d'un des investissements lorsque vous étiez au pouvoir, justement, dans ce temps-là?
Ben oui, ben plusieurs. Ben, tout ce que j'ai mentionné là pour l'intelligence artificielle, etc., c'est des choses que j'ai pu voir par la suite en termes d'investissement. Écoute, pour les entreprises quand même, je pense à Bell Hélicoptère, par exemple. Ça, je pense que ça a été un bel investissement en termes pour le Québec. Je pense Humano-médical. À l'INLE. C'est un autre exemple où ils ont développé leur ligne, etc. Puis ça a donné des impacts très concrets. LM Wind Power, ceux qui produisent les palmes d'éoliennes, l'entreprise était quasiment, ils ne savaient pas s'ils allaient la garder ouverte, etc. Puis on l'a investi pour agrandir l'usine. Il y a plusieurs exemples, oui.
Puis, le Québec a traditionnellement été fort dans l'aéronautique puis les ressources naturelles. Est-ce qu'il y a eu certains défis lorsque vous avez tenté de travailler à diversifier justement le portefeuille économique du Québec avec, par exemple, l'IA?
Je rappelle les défis qu'on a eus, c'est qu'on était sous administration américaine Trump à l'époque. Et donc, on a eu des tarifs qui nous ont été imposés sur le bois, sur l'acier, sur l'aluminium et dans l'aérospatial. On avait la totale. Puis là, des droits, genre 10% à droite, 10% à gauche, 130% dans l'aérospatial. C'était ridicule. C'était des attaques très frontales. Et donc, j'ai été aux premières loges, un dans la renégociation de l'ALENA, parce que on devait renégocier avec le Mexique et les États-Unis. Deux, dans la bataille avec les tarifs, avec le gouvernement américain. Donc, très impliqué là-dedans. Donc, c'est pas une diversification, je te dirais plus qu'on a été dans, c'est de défendre les intérêts du Québec de manière importante, puis aller tout le temps aux États-Unis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour aller rencontrer les élus, pour leur expliquer l'importance de la chaîne d'approvisionnement avec le Canada et avec le Québec en particulier.
Puis, est-ce que vous avez des exemples des mesures que vous avez prises, par exemple, pour justement contrer ces taxes-là qui faisaient mal justement aux entreprises
Ah, écoute,
ici?
on a donné de l'argent, hein. Je veux dire, c'est ça qu'on a fait. Quand il y a eu en plus de, on est allé devant les tribunaux puis on a gagné. Mais avant ça, le jour 1, je me souviens, le jour 1, quand l'imposition des tarifs, on était prêt. On avait déjà le programme qui était prêt. Tout le secteur du bois pouvait appeler pour qu'on puisse faire les suivis, pour qu'on puisse leur donner des subventions, etc. Tout était organisé d'avance. Et là-dessus, j'aimerais saluer au passage Philippe Couillard, qui a été d'une exemplarité extraordinaire comme représentant de sa région à l'époque, qui était le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi comme premier ministre, où il a tout de suite donné le ton en disant, moi, je vais m'occuper de chacune de nos régions ressources, puis on va défendre leurs intérêts, puis on va être là pour les soutenir.
Puis pour transitionner un peu vers la transition durable, quelles sont selon vous certaines transformations urgentes à aborder dans l'approche du Québec ou du Canada en matière de durabilité?
Mais d'abord, c'est tellement un effort collectif que on a besoin de revoir la manière dont on enseigne à nos étudiants la question de la transition durable. Tous les cours, tous les programmes devraient avoir ça comme priorité. Même chose pour des cycles supérieurs. La manière dont les organisations à l'interne se transforment, on a besoin de donner un coup de barre. Puis souvent, les gens sont conscients. Mais entre la conscience, l'engagement, puis le passage à l'action, il y a comme une étape. Alors, je suis conscient qu'il y a des enjeux environnementaux, très bien. Est-ce que tu es engagé dans cette question? Est-ce que tu es interpellé? Il y a des choses, des gestes que tu poses? Ben, certains, OK, je suis engagé, mais est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je me dis qu'il y a une initiative extraordinaire que je pourrais mettre de l'avant? Est-ce que je passe à l'action? Donc, ce sur quoi on travaille présentement, c'est beaucoup l'idée de faire en sorte que les gens prennent conscience, s'engage, passe à l'action et dans des programmes bien spécifiques. Donc la société, pour les gouvernements, c'est le passage à l'action qui compte. Qu'est-ce que les gouvernements? Est-ce qu'on fait encore affaire avec des entreprises comme gouvernement qui n'ont pas de rapport ESG, qui ne respectent pas les meilleures normes qu'on pourrait avoir? Il y a quand même encore du travail à faire pour ça.
Puis vous avez parlé justement du passage à l'action. Puis souvent, on aborde la relation durabilité puis peut-être les profits des entreprises comme étant l'un ou l'autre un choix. Comment est-ce que vous abordez justement cette relation-là?
La transition, moi je crois pas à la décroissance, là on va commencer par ça. Je crois à une meilleure consommation, l'économie circulaire, la manière de faire les choses différemment, évidemment. Mais je pense que on est capable de faire de l'argent. C'est important, on vit dans un système capitaliste. À moins que tu veux me mettre le système capitaliste à terre, on vit dans un système capitaliste. Maintenant, ce système capitaliste-là a eu des conséquences énormes en termes d'inégalité. Donc, il mérite d'être revu. Il mérite d'être revu et repensé pour qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse. C'est aberrant de voir certains salaires alors que, y a des gens qui ont regardé, t'as juste à voir, tu viens à McGill, tu le vois mieux que moi tous les jours au centre-ville de Montréal, où l'itinérance a pris énormément de place. Maintenant, des mamans avec des enfants j'avais jamais vu ça à Montréal. J'avais jamais vu ça à Montréal. Alors, on a une responsabilité. Il faut que les gens puissent faire des profits, faire de l'argent, très bien, mais il faut s'assurer que ça se fasse avec un impact social et environnemental qui soit significatif et que tous les coûts qui sont pas qui sont externalisés aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les coûts sont associés à l'environnement, ou sociales devraient être prises en considération quand la décision est prise.
Donc, vous soutenez que l'économie durable prend en compte les aspects sociaux et environnementaux, mais comment est-ce que vous abordez les externalités dans l'équation?
Tu sais, c'est facile de dire, tu fais venir un produit de la Chine que tu revends. Puis tu le revends à moindre coût qu'un produit qui est produit au Canada. C'est vrai. Mais jamais ce coût-là, le coût du transport a été pris en considération sur l'impact qu'il a sur la biodiversité, sur l'environnement, etc. Ces coûts ne font pas partie de l'équation, ben, on ne les paye pas alors qu'ils ont véritablement un impact. Donc, il faudrait, ultimement, qu'on soit capable de mettre un signe de dollar sur ces coûts à l'environnement. Il faut mettre, comment on met un signe de dollar sur ce que c'est qu'une tonne une tonne de CO2?
Donc, ce serait quoi un moyen concret d'implémenter un système pour promouvoir l'économie durable? Puis, est-ce que ça devrait nécessairement être punitif? Ou il y a un autre système qu'on pourrait percevoir qui, justement, pourrait promouvoir l'économie durable sans être punitif?
Ben moi, je pense que ça peut être punitif aussi. Je veux
OK.
dire, je pense que le malus, le bonus-malus, ça fonctionne.
OK.
On peut amener des incitatifs autant comme autant. Puis les gouvernements sont très friands des incitatifs parce que c'est quand même plus facile que de dire tu vas payer plus de taxes. Mais à un moment donné, le malus a besoin d'être là aussi. On a besoin d'instaurer des règles qui fassent en sorte que les gens, il y a un désavantage réel à acheter des grosses bagnoles. Tu sais, j'ai une auto qui est électrique, qui n'est pas très grande. Mais quand je me stationne, je ne peux pas croire. J'ai tellement d'espace en avant et en arrière. C'est fait pour des gros pick-up, cette affaire-là, des espaces de stationnement. Puis ils vont payer le même prix que moi, qui ai une auto plus petite. Alors, il faut qu'on repense toute la manière de réfléchir par rapport à ça.
Puis, tournant vers la section de guidance, quel conseil donneriez-vous aux jeunes professionnels, en particulier aux femmes qui aspirent à entrer en politique ou à occuper des postes de direction dans des domaines?
Développer leur réseau, puis là je vais dire des réseaux de soutien. Parfois ça va pas être facile, puis c'est important de développer un endroit où tu te tiens entre filles, puis tu es capable de parler, etc. Mais c'est tout aussi important. On parle beaucoup de safe space dans les universités, mais moi je pense qu'il faut aussi sortir des safe space puis aller dans des brave space où tu as des conversations qui sont plus difficiles à avoir, tu as des moments qui vont être plus lourds. Moi, j'étais fascinée par une rencontre que j'ai eue avec des jeunes étudiants du HEC. Il y avait environ moitié filles, moitié gars. On a beaucoup parlé de femmes, par la force des choses. Puis à la fin de la conversation, je me suis dit, est-ce qu'on a trop parlé de femmes? Alors j'ai posé la question aux gars. J'ai dit, quoi, les gars, on n'a pas de peine à faire. On parle beaucoup de femmes. Ils disent, ouais, mais on n'a jamais l'occasion d'en parler. Dit, pour nous, c'était vraiment intéressant. Alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi quand je dis ça, mais c'est comme si ce genre d'échange-là, sur les barrières que vont rencontrer les filles, etc. C'est pas des sujets qui sont abordés avec les gars, alors qu'on devrait le faire. Il y a une énorme polarisation dans ta génération. T'as quel âge, Mathis? T'es en plein dans la génération Z. Il y a une énorme polarisation à l'intérieur de la génération Z, où les filles sont beaucoup plus ouvertes aux questions environnementales, sociales, LGBTQ, j'en passe. Et les gars deviennent de plus en plus conservateurs à la Andrew Tate. Et une des raisons qui explique ça aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas de dialogue. Qu'on n'est pas qu'on se polarise même à l'intérieur de notre nouvelle génération. Ça, c'est dramatique. Alors, tout ce qu'on peut faire pour échanger, pour bâtir le lien avec l'autre, puis couper cette polarisation-là, je pense que ça fait partie de ce qu'on devrait faire.
Donc, sortir de sa zone de confort un peu pour avoir ce dialogue-là.
Constamment sortir de sa zone de confort. Je pense que j'ai fait ça toute ma vie. Sortir de ma zone de confort. C'est pas facile. Mais chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort. C'est l'impact qui est extraordinaire. Mais de foncer, de pas avoir peur, puis souvent on se remet en question. Puis les gens utilisent beaucoup la question du syndrome de l'imposteur. Ah oui, mais je sais pas si je. Si c'est correct de se poser des questions aussi. C'est correct de se remettre en question. Mais quand tu te compares, t'es pas pire qu'un autre. Puis tu dois parfois passer à travers. On te demande pas d'être parfait pour obtenir des postes. Fonce, fonce. Puis assure-toi d'avoir une ancre quelque part pour te soutenir. Puis essaye différentes choses, plein de choses différentes. Parce que là, tu vas voir dans quoi t'es bon, dans quoi t'es pas bon, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ça va guider tes choix par la suite.
Peut-être qu'il va avoir un peu de...
Essayera.
Ouais, exact.
C'est sûr. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut.
Puis, quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune qui vient de graduer de l'université présentement?
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, c'est peut-être pas un conseil que les gens ont envie d'entendre, mais au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé. Mais ça, c'est comme un investissement dans n'importe quoi. Je trouve que quand tu travailles beaucoup au début de ta carrière, moi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, ben, ça m'a permis de gravir des échelons rapidement, ça m'a permis d'acquérir une expérience extraordinaire rapidement qui m'a servi toute ma vie par la suite. Après ça, c'est à moi envie de travailler, ce sera toujours le temps de ralentir. Mais tu sais, foncer, là. Moi, je trouve ça bon, mais je suis pas sûre d'être très peu populaire en disant ça aujourd'hui.
Puis là, on a une partie de questions rapides. Donc, quel est le meilleur conseil que quelqu'un vous a jamais donné?
Le meilleur conseil que quelqu'un m'ait jamais donné, ça doit être certainement mon père. Je dirais mon père quand il m'a dit Dominique, il faut être vite dans la vie, mais il faut pas être pressé. La différence entre être rapide et la précipitation, cet équilibre-là. Parce que moi, j'ai faim tout le temps, tout le temps. Alors, je fonce tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est comme l'équilibre est important. Tu n'as pas besoin d'être pressé non plus. Tu peux faire les choses à la vitesse, sans précipitation. Ça a été un de ses bons conseils. Ils ont été nombreux quand même, ces conseils, mais un de ses bons conseils.
Puis, comment décririez-vous votre carrière en rapidement une phrase?
Je veux utiliser intense, c'est sûr que le mot intense rentre là-dedans. Mais je vais utiliser un autre mot aussi qui veut dire intense et varié. Varié, je la trouve un peu banale, un peu sans couleur comme mot. Mais c'est le mot qui me vient en tête. J'ai touché à tellement de choses. J'ai fait du secteur privé, j'étais à l'international, j'ai fait de la consultation, j'ai fait du parapublic, j'ai entrepreneur social parce que j'ai lancé une fondation, j'ai écrit un livre. La politique, là, je suis dans l'académique, je fais toutes sortes de choses.
Ouais.
Alors, c'est varié puis c'est intense. Je pense que c'est ça.
Puis sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que le GPA pour les étudiants est important?
3.
Je vous contraste avec nos réponses habituelles.
Ben, je veux dire, le GPA. Bon, c'est sûr que ça a un mauvais GPA, très mauvais GPA. Bon, ça peut avoir des conséquences pour tes notes. Je pense pas que ce soit nécessairement ça qui fasse la différence. Tu sais, t'as gradué, là. T'es ingénieur, t'es ingénieur. T'es mathématicien, t'es mathématicien, t'es bon. À moins que tu veux faire une maîtrise, puis là, ça peut être t'as pas les notes pour aller faire une maîtrise, mais je mettrais pas. Moi, je trouve que des gens se stressent beaucoup avec leurs notes. Personne n'embauche des notes dans la vie. Personne. T'embauches une capacité de réflexion, t'embauches une. Alors évidemment, les notes peuvent traduire ça, mais il y a autre chose aussi qui peut traduire ça. Les implications sociales peuvent traduire ça. Une capacité de guider un groupe. Les gens, ils sont très bons à l'école, ils sont pas sympathiques du tout, t'as pas envie de travailler avec eux, tu sais. Bon. Alors, donc pas tant. Pas tant. Je ne veux pas une si grande emphase sur les notes.
Puis, quel livre recommanderiez-vous à vos éditeurs?
Alors, j'en ai plusieurs. Le magnifique auteur qui est Amin Malouf, qui est extraordinaire, que je lis et relis, qui a écrit Les identités meurtrières et plein d'autres livres également. Et Léon l'Africain, etc. Mais c'est un homme, c'est extraordinaire ce qu'il écrit. Il a une plume, il est remarquable. C'est la seule fois où, dans ma vie, j'ai vraiment été groupie. J'ai rencontré à Paris. Sur 2 jours, j'ai rencontré genre 3 fois. Puis j'allais le voir 3 fois. J'étais complètement groupie. À la fin, il me reconnaissait. Il me dit, ah oui, je me vois quand même. C'est moi. J'ai adoré ces livres. Quel livre? Ben, je pense que ça vaut la peine de lire le livre sur le climat, le grand livre sur le climat. Peut-être un peu déprimant, mais moi, ça te dit un peu où est-ce qu'on en est par rapport au climat avec Greta Thunberg. Moi, j'aime beaucoup, ça dépend si les gens aiment les romans, pour se détendre. J'ai très peu lu dans la vie pour me détendre. Moi, je lis pour apprendre. Mais si tu veux te détendre avec des personnages extraordinaires, t'as Marie Laberge. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Le livre incontournable. Incontournable. Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Un chef-d'œuvre. de ce que c'est que la gestion du pouvoir et comment tu la transmets à l'époque de l'Empire romain. Mais c'est un livre magnifique. Mon livre préféré.
Super. Ben sur ce, ça conclut l'épisode. Merci d'avoir été autant généreuse avec votre temps.
Ah non, ça me fait
Oui,
plaisir. Plaisir de se revoir.
merci.
Merci, merci.
Merci d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, LinkedIn et Instagram. Bonne journée et à la prochaine. Le seul objectif de ce podcast est d'éduquer et informer nos auditeurs. Il ne serait en aucun cas remplacer l'orientation professionnelle par des experts qualifiés. Ce podcast est fourni sur la base de l'entente qui ne constitue pas un conseil financier ou professionnel, ni ne fournit de fonds de services professionnels. Au lieu de cela, nous vous encourageons à discuter de vos options de carrière ainsi que de vos engagements financiers avec des professionnels spécialisés dans la gestion de patrimoine, les valeurs mobilières et la gestion d'actifs ou tout autre domaine des services financiers. Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce podcast sont uniquement à titre informatif et tout recours aux informations fournies dans ce podcast est fait à vos risques personnels et individuels. Ce podcast ne doit pas être considéré comme un conseil professionnel. Les invités qui interviennent dans ce podcast expriment leur propre opinion, expérience et conclusion. Les points de vue exprimés sur cette plateforme sont des opinions personnelles uniquement et ne doivent pas être interprétés comme des conseils financiers pour votre situation donnée ou provenant d'une institution donnée. Bien que toutes les tentatives soient faites pour présenter des informations précises, elles peuvent ne pas être appropriées pour des circonstances spécifiques et les informations peuvent devenir obsolètes avec le temps. Aucune entreprise ni aucune société fournissant un soutien financier n'approuve ni ne s'oppose à une opinion ou des outils particuliers discutés dans ce podcast. Ce podcast est disponible uniquement pour un usage privé et non commercial. La publicité incorporée, associée ou ciblée vers le contenu de ce podcast est interdite. Ce podcast ne peut être modifié ou redistribué. Le Corporate Chat Podcast n'assume aucune responsabilité pour les activités personnelles liées à ce podcast ou pour l'utilisation personnelle de ce podcast en relation avec des sites web personnels, des ordinateurs ou des appareils de lecture. De plus, le Corporate Chat Podcast ne garantit en aucun cas que ce podcast ou le serveur qui le rend disponible est exempt de virus, de vers ou d'autres éléments ou codes présents des propriétés contaminantes ou destructrices. L'Université McGill et nos sponsors déclinent expressément toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accessoire, spécial, consécutif ou autre résultant de l'utilisation par toute personne de la référence A, de la confiance accordée à ou de l'incapacité à utiliser ce podcast ou les informations présentées dans ce podcast. Merci.